Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui dans le magazine Bana Okapi, nous abordons les sujets du stress chez l'enfant. Le stress n'est pas que l'apanage de beaucoup d'adultes. Les enfants, même les plus petits, peuvent en être victimes. Le stress a envahi toutes les sphères de la société, du travail à la famille. Il y a tout un cercle vicieux qui se forme. Nous avons de parents stressés par leur travail, par une situation économique difficile, par une séparation ou une maladie, par le manque de temps pour tout faire. Et ces parents peuvent communiquer le stress aux enfants. Le stress chez les enfants peut avoir plusieurs causes, notamment l'école, la famille, l'environnement dans lequel ils vivent, la liste est longue. Ce numéro du magazine Bana Okapi vous renseigne sur les plus grandes causes de stress chez les enfants, mais aussi les principaux signaux d'alerte du stress. Sarah Sumbela est à la présentation de ce magazine, Polydor Basunga sur la mise en onde, une réalisation de Stanislas Diomi et Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matuaki Mofelele Dijano.
Okapi, Netabendi Yamani.
Quelles sont les plus grandes causes de stress chez les enfants? Et comment reconnaître que son enfant est stressé? C'est tout de suite avec Stanislas Diomi et Élise Kavira.
Bonjour Stanislas Diomi.
Bonjour Élise Kavira.
Qu'est-ce que le stress?
Alors Élise, le stress est une sensation courante qui survient quand nous sommes sous pression et nous donne l'impression d'être dépassés par les événements ou incapables d'y faire face. À petite dose, le stress peut se révéler bénéfique et nous motiver à atteindre certains objectifs, par exemple passer un examen ou prononcer un discours. À l'inverse, un stress trop intense, qui semble échapper à notre contrôle, est susceptible d'impacter notre humeur, notre bien-être physique et mental, et nos relations avec les autres.
Mais qu'est-ce qui cause le stress?
Eh bien, les enfants ne ressentent pas toujours le stress de la même façon que les adultes. Si le stress lié au travail est répandu chez les adultes, la plupart des enfants se sentent stressés lorsqu'ils ne parviennent pas à gérer les situations inquiétantes, épouvantes ou pénibles telles que les pensées et sentiments négatifs à leur sujet, les changements physiques, notamment au début de la puberté, la pression scolaire, examen ou charge croissante de devoirs à la maison, pour le plus grand, les disputes avec les amis à l'école et les rapports sociaux, les grands changements comme un déménagement, une nouvelle école ou la séparation du parent, une maladie chronique, des problèmes financiers au sein de la famille ou le décès d'un être cher, les environnements malsains à la maison ou dans leurs entourages.
Le stress peut être déclenché par quoi exactement?
Eh bien, il faut comprendre, Élise, que chez les enfants, le stress peut être déclenché par un événement nouveau ou inattendu. Pour les jeunes enfants, les tensions à la maison, comme les violences au sein de la famille, la séparation des parents ou le décès d'un proche, sont des sources fréquentes de stress. L'école constitue un autre facteur courant. C'est faire des nouveaux amis ou passer des examens est susceptible de déstabiliser les enfants. En grandissant, les enfants traversent de grands changements. De nouveaux cercles d'amis, une charge accrue de travail scolaire et un accès élargi aux médias sociaux et à l'actualité mondiale constituent autant de nouvelles sources potentielles de stress. Un grand nombre d'adolescents se sentent ainsi angoissés par des problématiques sociales telles que les changements climatiques et les discriminations.
Monsieur Stanislas, quels sont les signes et symptômes de stress chez les enfants?
Alors, Madame Élise Kavira, il faut savoir que lorsque le corps est stressé, il sécrète des hormones telles que l'adrénaline, le cortisol, et qui nous prépare à agir dans l'urgence par le combat ou la fuite, et selon les spécialistes. Ces hormones se traduisent par différents effets sur l'esprit et le corps d'un enfant. Des symptômes physiques sont notamment le souffle court, transpiration et palpitations, maux de tête, étourdissement, et troubles du sommeil, nausées, indigestion ou problèmes digestifs pour ne citer que ceux-ci. Parmi les symptômes émotionnels et psychologiques, il y a l'irritabilité et colère entraînant des accès de rage ou une prise de distance avec la famille et les amis. Les délaissements de responsabilités, baisse d'efficacité lors de la réalisation de tâches ou difficultés de concentration. Détresse émotionnelle telle qu'un sentiment de tristesse ou une envie de pleurer permanent. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons retenir des symptômes de stress chez les enfants, Madame Élise.
Merci, Monsieur Stanislas.
Merci à vous, Madame Élise.
Radio Okapi.
Le stress chez l'enfant est une réalité. Le psychologue affirme que même les plus petits peuvent être en proie à un stress dangereux pour la santé. C'est fréquent aujourd'hui de voir les enfants de 7 ou 8 ans trop stressés. Comment un parent peut-il détecter le stress chez son enfant et comment y faire face efficacement? André Kitenge, notre dynamique collègue basé à Beni, a discuté de cette question avec Monsieur André Bifoukou. Ne manquez pas leur entretien.
André Bifoukou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parent. Quels sont les signes de stress que vous avez déjà remarqués chez votre enfant?
Oui, très souvent, pour savoir quel enfant est stressé, très souvent, je vois qu'il est un peu calme, il ne parle pas, il manque aussi parfois l'appétit. Et souvent, tu les vois un peu sa motivation et ça te pousse déjà directement, moi personnellement, à voir que l'enfant a un souci de stress.
Et cela, ça arrive souvent?
Pas souvent, tout dépend aussi des circonstances. Mais beaucoup plus, moi j'ai remarqué, c'est souvent quand ils vont à l'école. Donc pendant les moments scolaires, très souvent je peux remarquer cela.
Y a-t-il des situations particulières qui semblent déclencher le stress de votre enfant? Et là vous avez parlé surtout lorsqu'il s'agit des activités scolaires. Il y a-t-il d'autres situations?
Oui, à part les moments scolaires, oui, on peut remarquer aussi parfois à la maison. Si, par exemple, ceux qui sont beaucoup plus proches de l'enfant ne puissent pas lui donner ce qu'il réclame, ça peut être la nourriture que l'enfant cherche, ça peut être un traitement que moi, par exemple, je n'ai pas remarqué, mais que peut-être que l'enfant a subi avec d'autres personnes à la maison. C'est là aussi, ça peut lui créer aussi des stress. Et très souvent, je remarque ça. Et je conclue souvent que c'est un traitement, peut-être au niveau de la maison, qui fait que l'enfant soit dans une situation de stress.
Comment réagissez-vous lorsque votre enfant montre ces signes de stress?
Très souvent, quand je remarque que l'enfant est dans cette situation de stress, souvent je l'aborde. Je dois chercher d'abord à lui parler. Je lui pose même parfois des questions pour savoir de quoi il s'agit réellement. Tu vois, l'enfant, c'est, il est innocent et très souvent il ne peut pas te dire ouvertement, mais dès que vous lui posez des questions, qu'est-ce qui se passe mon enfant? Tu vas remarquer par des gestes que réellement il y a une situation de stress. Il faut alors prendre un peu de temps pour lui parler, pour essayer de le consoler, chercher quelque chose de distraction. Moi, personnellement, souvent, je lui donne mon téléphone. Il y a des jeux dans mon téléphone. Souvent, il prend, il regarde. Et tu peux remarquer qu'il commence à sourire un peu. Voilà un peu ce que je fais. Et là, maintenant, vous pouvez découvrir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Il peut te dire maintenant, voilà, papa, j'ai été provoqué par tel. Et c'est pourquoi je n'étais pas un peu content. Voilà un peu quoi.
En dehors du téléphone, quelle autre stratégie avez-vous déjà essayé pour aider votre enfant à gérer son stress?
Je sais très souvent, j'ai des jeux des enfants à la maison. Par exemple, les garçons, d'ailleurs même j'ai la fille aussi qui s'intéresse aujourd'hui aux jeux des garçons. Très souvent, je peux sortir un peu dehors avec un petit ballon. Je fais un peu comme si je joue avec l'enfant. Il voit que, je remarque déjà que ça change un peu. On peut faire un petit jeu, on peut courir un peu dans la clôture. Et je remarque qu'il commence à sourire. Et voilà un peu parmi les stratégies.
Votre enfant parle-t-il de ses sentiments ou de ses préoccupations avec vous?
Oui, quand je l'aborde. Et quand je remarque, comme j'ai bien dit, quand je remarque qu'il est dans une situation de stress, je l'aborde. Et après une petite distraction, il essaye maintenant de me dire, voilà, c'est elle qui m'a provoqué, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Voilà, tu découvres un peu qu'est-ce qui se passe réellement. Et comme j'ai dit, si c'est lié aux activités scolaires, il a souvent parfois des devoirs un peu compliqués. Au lieu de se concentrer, bon, il se trouve dans une situation de stress et là maintenant je peux commencer à l'aider évidemment à quitter cette situation-là de stress.
Nous avons plus parlé de stress chez votre enfant. Et vous, comment gérez-vous votre propre stress en tant que parent?
Oui, c'est compliqué et puis avec la situation que nous menons chez nous, beaucoup plus ici à l'Est, vous comprenez que le stress, nous, parents et moi personnellement, c'est beaucoup plus lié à beaucoup de choses. Et maintenant, évidemment, j'essaie aussi de me distraire, quoi, beaucoup plus avec les amis, les collègues de service. Je partage un peu ce que je ressens. Et très souvent, je vois qu'un collègue aussi peut me dire, voilà, ce que tu es en train de subir, je l'ai subi aussi. Aujourd'hui, par exemple, où nous sommes en train de parler, il y a un collègue qui m'a dit qu'il est un peu stressé vis-à-vis de ce qui se passe un peu autour de Goma. Et il m'a même dit qu'il n'a pas sommeillé. Et pourtant, j'ai senti la même chose. Alors, quand on se partage un peu des situations-là de stress, souvent, moi, ça me console un peu. Je comprends que je ne suis pas le seul qui est dans cette situation. Ça me console un peu. Bon, à part ça, souvent aussi, je peux chercher aussi à m'occuper, par exemple, d'un sujet beaucoup plus qui m'intéresse. Et je peux m'occuper à ça pour essayer de me distraire. Et voilà un peu parmi les stratégies que j'utilise pour un peu dépasser ces moments-là de stress.
Donc, vous essayez de gérer votre propre stress en partageant vos petits soucis.
C'est effectivement ça. Et j'ai remarqué que ça m'aide beaucoup puisque j'ai toujours constaté que quand on garde ça sur soi-même, souvent ça peut créer encore plus d'abus. C'est pourquoi moi j'ai toujours préféré partager ce que je ressens, ce qui est une situation qui me met dans un moment de stress. Et souvent les amis, les collègues, ils vous partagent des choses qui vous aident aussi à vous dépasser.
Avez-vous remarqué des changements dans le comportement ou les habitudes de votre enfant récemment?
Oui, oui. Je dois avouer qu'il y a un changement. D'ailleurs, c'est une fierté à moi. Je vis que quand même, il grandit de plus en plus. La façon dont il voyait les choses avant, j'ai senti que quand même, il devient de plus en plus responsable. Je me rappelle un petit exercice que j'ai donné dernièrement pour essayer de le distraire. C'était un exercice un peu compliqué de monter une moustiquaire. Ça m'a fait du bien quand j'ai vu que l'enfant, à ce niveau, il est arrivé vraiment à monter ça et il est venu m'appeler. Et ça a été comme un succès même pour lui et pour moi aussi. Donc, je sais quand même qu'il y a un changement, surtout les grands frères qui, je vois, ils deviennent de plus en plus responsables. Ils peuvent s'occuper aussi de plus petits. Voilà, donc il y a vraiment un changement que j'ai remarqué dans mon enfant, quoi.
André Bifuko, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Merci à vous, André Bifuko. Chers auditeurs et amoureux du magazine Bano Okapi, nous clôturons la première partie de notre magazine, le magazine des jeunes et plus jeunes.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bano Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans la seconde partie de votre magazine préféré qui vous parle aujourd'hui des plus grandes causes de stress chez les enfants. En effet, les enfants peuvent être aussi stressés que les adultes. Mais contrairement aux adultes, les enfants sont démunis et ils ne peuvent identifier des situations stressantes pour les éviter à l'avenir et ne savent pas très souvent verbaliser leur anxiété. Quelles sont les plus grandes causes de stress chez les enfants? Quels sont les principaux signes d'alerte? C'est tout de suite dans cette seconde partie du magazine Bano Okapi avec nos invités. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sumbela. La mise en onde est assurée par Polydor Basunga. Gisèle Cage et Stanislas Diumi réalisent ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. Cette seconde partie s'ouvre sur une note de bonne humeur. Okapi. Cher auditeur, avant de discuter du stress chez les enfants avec nos invités, donnons d'abord la parole à un enseignant. Les enseignants peuvent-ils détecter le stress chez les enfants? Et quelles mesures prennent-ils pour gérer cette situation à l'école? Monsieur Jean-Simon Likochi, conseiller d'orientation à l'école d'application de l'Université pédagogique nationale, répond aux questions de Grace Voiselo.
Bonjour Monsieur Jean-Simon Likochi.
Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à tous les amis fidèles de la radio Okapi.
Vous êtes conseiller d'orientation à l'école d'application de l'Université pédagogique nationale. Aujourd'hui nous parlons de plus grandes causes de stress chez les enfants. Alors vous en tant que conseiller d'orientation, quels signes de stress observez-vous le plus souvent chez vos élèves?
Les stress, nous les observons souvent chez les enfants. Les enfants stressés, souvent ils manifestent la timidité, vous voyez, il est timide dans la salle de classe, il est fermé, vous voyez que les autres sont parfois ouverts, lui il est fermé dans son coin là, parfois comme si quelqu'un qui n'a pas mangé le matin, vous sentez vraiment que cet enfant, cet élève a un problème. Et quand vous entrez en profondeur, vous allez trouver que ce sont des caractéristiques, ce sont des signes, des symptômes, des stress.
Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour aider les élèves à gérer leur stress à l'école?
Bon, nous utilisons nos stratégies, c'est d'abord l'observation et puis nous utilisons les entretiens. Les entretiens, quand vous remarquez de tels symptômes, vous approchez l'enfant, vous les retirez à côté de ses amis, vous les retirez quelque part, et puis vous commencez à lui poser des petites questions. Comment vous allez? Comment va papa? Le matin, qu'est-ce qu'il y a eu le matin? Est-ce que papa t'a donné un petit rien, un 500 francs pour acheter un gâteau, tout ça? Et vous allez remarquer que parfois, parmi les questions, il y a tant d'autres. Parfois, je donne un exemple, si l'enfant le matin, et son papa ou sa maman lui a pas donné un 500 francs. Vous voyez que l'enfant psychologiquement n'est pas à l'aise. Vous comprenez? L'enfant n'est pas à l'aise puisque pendant le moment de la récréation, les amours vont chercher un petit gâteau, même du jus. Et lui, il est comme ça, timide, en train de regarder les amis et il est dans ce que nous appelons l'ingala. Il est mawa mawa. Vous comprenez? Et pendant ces moments-là, et vous allez comprendre que l'origine de ce comportement qui est arrivé à l'école, c'est la maison. On n'a pas aidé l'enfant à la maison à lui donner un petit rien, un 500, un 1000 francs. Voilà un peu le problème. Comment nous découvrons les symptômes, les signes des enfants stressés.
Comment intégrez-vous la gestion du stress dans votre programme scolaire? Après avoir découvert les signes, il faut nécessairement intégrer la gestion du stress dans les programmes scolaires.
Bon, l'intégration de ces phénomènes, de ce type de caractéristiques dans le programme, là c'est au niveau du législateur. C'est le législateur lui-même qui va intégrer ces programmes. Mais néanmoins, au niveau interne, c'est-à-dire au niveau des classes, au niveau de l'école, nous les gérons pendant où l'enseignant est en train de faire son travail. Et quand il remarque de tels symptômes, de tels signes, souvent on nous amène, on parle et si nous parlons avec l'enfant, on lui donne des conseils, on lui donne ce qui lui manque. Psychologiquement, on cherche à soulager son sourire, à remonter son sourire avec l'enseignant. Et c'est de cette manière-là, d'une façon interne, que nous traitons. Nous les traitons de notre manière, avec nos techniques, nos méthodes pour que cela ne se répète pas.
Est-ce que vous associez aussi les parents pour pallier à cette situation?
Affirmatif. Le travail, c'est un travail collectif. Ce n'est pas un travail individuel. Nous associons les parents. D'abord, comme vous m'avez posé la question, les parents sont associés. Il y a aussi les enseignants. On doit aussi parler avec les enseignants. Voilà, dans votre classe, c'est quand vous faites bien votre travail. Cherchez à identifier les enfants qui sont stressés et cherchez à remonter leur morale, qu'ils soient dans le même biais d'égalité que les autres. Si nous remarquons souvent qu'il y a répétition de ces comportements, là, nous sommes obligés de chercher à être en contact avec les parents. Et vous allez voir que le même signe que nous remarquons, parfois les mêmes remarques ou les réponses que nous donnons aux parents, les parents aussi, même à la maison, ils font le travail puisque c'est un travail de collaboration. C'est un travail collectif. Ce n'est pas un travail individuel qui concerne que les psychologues, non.
Alors, que dites-vous concrètement aux parents, vous en tant que conseiller d'orientation, pour les orienter enfin de gérer les stress chez les enfants?
Oui, bon, nous allons vraiment avec les parents, nous allons avec des mots concrets et des mots directs. Par exemple, quand l'enfant arrive à la maison, puisque je ne peux pas peut-être vous dévoiler, j'ai un cas que je suis en train de suivre dans la classe de 7e. Vous voyez, la fille se réveille le matin. Et la fille vit chez sa grande sœur, par exemple. Chez sa grande sœur. Le matin, la grande sœur lui oblige. La grande sœur oublie qu'il y a l'école. L'école commence à quelle heure et ça se termine à quelle heure. L'enfant doit quitter la maison à quelle heure. Et parfois, la grande sœur lui demande, lui oblige. C'est une obligation, lui oblige de faire la vaisselle. Vous comprenez? Et le matin, comme ça, l'enfant est stressé. Il est entre le marteau et l'encline, quitter la maison, rejoindre l'école. Vous voyez que psychologiquement, il n'est pas à l'aise. Et souvent, cette fille arrive souvent en retard. Et quand j'ai essayé un peu d'entrer en profondeur, la cause est que c'est la grande sœur. Et un jour, j'ai parlé avec maman. Là, vous voyez un peu à la maison, essayer un peu de résoudre ces problèmes pour que l'enfant ne soit pas à tout moment frustré, stressé à chaque fois qu'elle arrive à l'entrée de l'école. Puisqu'à l'entrée de l'école, il y a des heures, puisque l'école c'est une institution qui a des règlements. Vous ne pouvez pas venir à 8 heures, vous ne pouvez pas venir à 9 heures. Et toute personne, tout élève qui arrive à 7 heures, il est sanctionné, soit on lui met en retard, on lui demande à balayer, tout ça. Alors, pour éviter de telles punitions, nous parlons aux parents qui, à la maison, donner le temps aux enfants, des petits travaux, il y a des moments. Mais il y a des moments aussi, donner aussi le temps que les enfants puissent aller au lit à temps, puisqu'ils doivent dormir à temps. Voilà, c'est de cette manière que nous résolvons des problèmes, surtout avec les parents à la maison.
Comment évaluez-vous l'efficacité de ces stratégies de gestion des stress que vous avez mises en place dans votre établissement scolaire? En termes de pourcentage, comment vous pouvez les évaluer?
En termes de pourcentage, j'ai pas allé en termes, nous avons nos sanctions que nous appelons des sanctions un peu psychologiques. D'une façon psychologique, l'évaluation est positive. Et positive pourquoi? Puisque nous avons des résultats. Les résultats concrets sont là. Mais en termes de pourcentage, j'ai pu aller dans les 80% des problèmes stressés que nous réservons dans notre école. Bon, ce que nous voulons seulement, qu'il y ait un peu des moments de récréation, des moments... Par exemple, quand on organise des journées qui disent, voilà, pendant ces moments-là, les enfants sont déstressés. Ils sont à l'aise, ils oublient tout. Et c'est un moment de jouissance avec les amis. Et de cette manière, s'il y a les gens qui contactent les comités de gestion avec de telles initiatives, des journées culturelles, des échanges, c'est de cette manière qu'on peut, résoudre ces problèmes de stress au niveau des enfants.
Voilà. Est-ce qu'il y a un message à lancer aux enseignants, aux parents et aux élèves sur ces sujets?
Bon, je crois, surtout aux enfants, puisque c'est nos instruments de travail. Aux enfants, je leur dis de ne pas avoir trop de problèmes, surtout à la maison. Et chaque fois qu'il y a un problème, il y a des malaises, il faut toujours parler aux parents, même à l'école. Il ne faut pas que l'enseignant puisse découvrir votre malaise. Vous avez un problème et faites un effort de parler toujours avec votre enseignant, votre parent, et de ces manières-là que vous allez trouver des solutions. Parce que les stress, souvent, ce sont des moments un peu, je peux dire, ce ne sont pas des moments chroniques. Si ça devient chronique, ça devient fréquent, là, ça devient peut-être, on peut entrer en profondeur. Mais ce sont des moments qui arrivent et des moments qui disparaissent. Vous comprenez?
Monsieur Jean-Simon Likochi, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste, et je remercie tout le monde, je remercie tous les fidèles auditeurs de la radio.
Okapi, Metabendi Yamani.
Le décès d'un parent ou d'un tuteur, la séparation de parents et les violences domestiques sont quelques-unes de principales sources de stress chez les enfants et les jeunes. Le manque de soutien social, l'absence d'interaction communautaire et les problèmes sociaux contribuent également au stress des enfants du point de vue communautaire. Nous en discutons avec M. Christian Moufarigi, sociologue résident à Bukavu, au sud Kivu. Il nous éclaire sur le rôle de la communauté, de l'école et des adultes pour atténuer le stress chez les enfants. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangu.
Monsieur Moufarigi, Christian, bonjour.
Oui, bonjour, madame la journaliste.
Dites-nous, quelles sont les principales sources de stress chez les enfants et les jeunes aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, il y a tout un folklore des stress que nous observons, c'est de la communauté. Et cependant, les principales sources, nous voyons d'abord chez les jeunes, à l'égard de la communauté, ils ont perdu l'équilibre. Et naturellement, suite au décès d'un parent ou d'un responsable, à part le décès, c'est par la séparation des parents. Il y a aussi la violence, l'agression au sein de la communauté. Et tout cela justifie le principal source de l'agression, c'est de la communauté.
Comment le stress chez les enfants et les jeunes a-t-il évolué au fil des années? À l'époque, c'était comment? Aujourd'hui, comment ça se présente?
Bien avant, il y avait des complexes au sein de la communauté. Bien avant, il n'y avait pas assez de stress, puisque la communauté était organisée par une sympathie sociale, une interaction, collaboration, c'est de la communauté. Vous pourriez voir un enfant qui quitte, par exemple, la ville de Bukavu, il va à Goma, il va rencontrer le parent, même si ce ne sont pas ses parents biologiques, et qui vont l'accueillir. Il sera encadré, il sera élevé comme les autres enfants au sein de la famille. Et exactement, il n'y avait pas assez de troubles sociaux, il n'y avait pas assez de mots sociaux. Cependant, au fil du temps, du jour le jour, il y a eu un changement. Absolument, c'est plus compliqué parce qu'il y a séparation des parents, également de mots sociaux comme la guerre, il y a la violence. Hein, et tout cela montre cette évolution de stress au sein de la communauté dans laquelle nous vivons.
Quel rôle jouent les parents et l'école dans la gestion du stress des enfants?
Oui, normalement, chaque responsable devrait jouer un rôle à son niveau. L'école doit nécessairement ou devrait nécessairement ici éduquer et élever les enfants pour éviter qu'ils ne puissent pas tomber dans ce système de stress. Organiser des jeux scolaires, des visites scolaires, mais aussi voir la manière dont on organise ici les examens, les différentes périodes au sein de l'institution éducative. Hein? Alors, cela peut facilement faciliter que l'école présente son rôle comme ici une institution au sein de la communauté. Pour le parent, les parents ont un grand rôle à jouer. L'enfant est d'abord né au sein de la famille. La famille est l'unité de base, c'est la cellule de base. Hein? Les parents ici ont ici un grand rôle à jouer. Notamment, les parents doivent prodiguer des conseils aux enfants. Ils doivent aussi établir un système éducatif familial au sein de la famille. Et bien avant, tantôt dans la société traditionnelle, on appelait les enfants quand ils faisaient 18h-19h, le papa, la maman, pour un débat, comment s'est passée la journée, qu'est-ce que vous avez fait ou réalisé comme travail. Et tout cela est un rôle, même si actuellement il y a ce petit souci. C'est-à-dire aussi, la famille a un rôle dédié, la famille a un rôle ici de conseiller les enfants au sein de cette unité ou cellule de base pour chasser le système de stress.
Et quels sont les effets du stress sur le développement des enfants et des jeunes?
Il y a des effets, puisque quand nous rentrons même dans la définition de ce concept stress, nous allons comprendre que c'est une agression psychique réalisée par un acteur externe. Alors il y aura des effets, notamment l'enfant en soi aura un déséquilibre total au sein de son interaction sociale. Hein? Il sera ici dépaysé. Il n'aura pas ici une considération ou l'estime de soi. Il va perdre ça. C'est là suite au stress, puisqu'il se voit être négligé, n'est pas considéré au sein de la communauté. Mais aussi, il peut se voir la répartition des biens de la famille. Hein, cela aussi peut être inclus dans ces effets. Et vous allez voir, on a donné seulement peut-être aux garçons le bien de la famille, on a laissé les jeunes filles sans respecter alors le système de parité. Et cela doit avoir de l'impact. Et ces effets, l'enfant va être sous-estimé au sein de la communauté. Et c'est déjà un effet négatif. Au sein de la communauté, lui-même peut développer d'autres conditions de vie qui ne sont pas encouragées dans la communauté, avoir un comportement d'agression envers ses frères et sœurs, ne pas collaborer. Voyez-vous, tout cela aussi serait considéré comme des effets de stress au sein de la communauté.
Vous êtes sociologue, dites-nous comment les enfants, comment les jeunes expriment-ils leur stress dans différentes cultures, en prenant exemple de la nôtre bien sûr.
Ah oui, la culture impacte naturellement sur l'homme. Comment cet enfant pourra ici exprimer ce système de stress? Oui, il peut garder un silence, il peut se réserver de toutes choses ou travailler en gardant silence. On pense ici que cet enfant manifeste une négligence et pourtant il est stressé. Hein? Il peut le manifester par une colère, par une crise cardiaque, battement de cœur. Il peut ici s'isoler de la communauté. Il dit que non, je suis nul au sein de cette communauté. Et voilà, il va s'isoler lui-même. Et ce sont ici des justifications.
Quelles stratégies peuvent être mises en place au niveau communautaire pour justement réduire le stress chez les jeunes?
Les stratégies doivent d'abord être cultivées par les acteurs de l'éducation, dirais-je, toute grande personne dans ses responsabilités, pour naturellement réduire les taux de stress au sein de la communauté. Nous devons également donner une considération à l'enfant, associer l'enfant à la gestion de la chose publique pour ne pas parler la chose de la famille, mais aussi donner à l'enfant les temps de loisirs, donner à l'enfant un temps de réfléchir, organiser ici des centres récréatifs pour le jeune, afin de leur prodiguer des conseils, mais aussi éviter qu'il puisse y avoir un chômage au sein de la communauté et que le jeune qui a fini ses études puisse trouver quand même une embauche et il va se sentir à l'aise tant soit peu. Mais aussi au sein de la famille, les parents doivent ici donner une considération égal à tous les enfants. Ne pas dire parce que je suis plus âgé que l'autre, celui-ci ou celle-ci, une fille ou un garçon. Maintenant, il faut que tout le monde ici soit considéré au même niveau. Je parlerai également des autorités politico-administratives. Les autorités, en soi, le gouvernement devrait mettre en place les institutions d'accueil des enfants, des jeunes, après l'école maternelle, l'école secondaire et l'université. Le faire aussi participer au développement de la communauté, en fait que tout le monde puisse se voir être ici chargé de quoi, du développement ou de différentes responsabilités au sein de la communauté.
Pour finir, Monsieur Moufaridji, comment les nouvelles technologies influencent-elles le stress chez les enfants, chez les jeunes?
La technologie ou la nouvelle technologie en soi, ce n'est pas un défi pour la communauté. C'est un exercice social qui pousse la communauté à un développement. Cependant, il faut voir l'acteur social qui utilise les outils de cette technologie. Un enfant qui a un téléphone intelligent, par exemple, il se voit être posté où on expose sa nudité publiquement. Cela doit nécessairement le pousser à ce système de stress. Mais aussi, la nouvelle technologie, à part les téléphones intelligents, on peut avoir sa machine ordinateur. Mais comment nous utilisons cet instrument technologique? Il y a tant d'outils technologiques. Mais comment nous les utilisons? C'est-à-dire, le problème d'influence résiderait dans le chef de l'acteur social. Et si l'acteur l'utilise très bien, conformément aux normes de la communauté ou conformément à l'ordre social, il ne peut pas y avoir une influence négative. Il y aura toujours une influence positive. Nous pouvons également prendre un exemple. Vous avez votre téléphone intelligent. vous voyez, vous envoyez des messages où vous faites les affaires actuellement de TikTok pour ici nuire à la personnalité ou à l'image de quelqu'un. Nous parlons de jeunes au sein de la communauté. Je m'en vais, si vous rappelez, d'un comportement drôle qui s'était passé à Bagira. Voyez-vous des jeunes filles mineures qui exposaient leur nudité, soit en disant qu'ils ont de l'argent. Voilà, cela peut conduire à ce système de stress au sein de la communauté.
Monsieur Moufarid, j'ai Christian, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Radio Okapi.
Notre deuxième invitée est Madame Rosette Disachi, psychologue clinicienne chez Help Me Group. Elle nous éclaire sur le principal cause de stress chez les enfants. Elle souligne que les conditions environnementales et les expériences négatives, telles que les violences physiques et psychologiques, les conflits conjugaux et la présence d'un parent souffrant des troubles mentaux, peuvent entraîner des troubles émotionnels et relationnels. Rosette appelle les parents à passer du temps de qualité avec leurs enfants et à rester vigilants, car le stress peut surgir à tout moment. Elle insiste sur l'importance de lutter contre le stress pour garantir des générations futures en meilleure santé. Alarmant, elle révèle que près de 21 millions de personnes en RDC souffrent de troubles mentaux. Découvrez ces conseils précieux dans cet entretien avec Jeff Opella.
Madame Rosette Disachi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeff.
Voilà, aujourd'hui nous parlons des plus grandes causes de stress chez les enfants. Vous, en tant que psychologue clinicienne, quelles sont les principales causes de stress chez les enfants?
Alors, les principales causes de stress chez les enfants, il y en a beaucoup, vous avez parlé des principales. Ce sont des causes qui relèvent de l'environnement, des conditions environnementales de l'enfant. Ce sont des expériences auxquelles passe l'enfant et qui peuvent générer le stress. Nous avons notamment des violences physiques et psychologiques. Nous avons aussi des abus sexuels. Les négligences physiques et psychologiques sont aussi des expériences stressantes. Être témoin de violences conjugales, avoir un parent qui a des problèmes de santé mentale ou un membre de famille qui a des problèmes addictifs aussi, ou soit la séparation de parents, la perte d'un parent, ou l'emprisonnement aussi d'un membre du ménage, peuvent être là des principales causes qui peuvent générer beaucoup de stress chez un enfant ou un adolescent.
Mais alors, quels sont les signes de stress chez les enfants que les parents devraient en fait surveiller?
Alors, en fonction de l'âge, nous pouvons avoir, par exemple, des enfants qui ont des crises de larmes très fréquentes. Ça peut être un enfant qui ne pleurait pas souvent, mais vous remarquerez que ces derniers temps, il y a l'enfant qui pleure ou qui a des crises de larmes plus régulièrement. Chez d'autres, ça peut être des crises de colère ou bien une forme d'irritabilité qui, en fonction de l'âge, peut aussi se manifester en agressivité. Donc, il y a aussi des problèmes d'alimentation, des enfants qui refusent de manger, comme chez les bébés, soit un refus de manger, ou vous pouvez avoir à un autre âge, vers les 8 ans, 9 ans, 10 ans, un enfant qui est plutôt en surconsommation, qui aura tendance à beaucoup plus ingérer. Il y a aussi le sommeil à surveiller. Il y a des enfants qui manquent le sommeil lorsqu'ils sont dans des périodes de stress, lorsqu'ils traversent des expériences stressantes. D'autres qui vont faire des hypersomnies, c'est-à-dire beaucoup plus de sommeil, comme chez les adolescents, on le retrouve beaucoup plus. Il y a aussi des formes de régression de comportement. Un enfant qui a 7 ans, qui avait déjà arrêté peut-être d'arrêter de faire pipi au lit, qui va recommencer à faire pipi au lit, par exemple, ou qui va développer des comportements qui ne sont pas de son âge, qu'il a déjà dépassé. Vous pouvez remarquer aussi que l'enfant va rester très très attaché à l'adulte et ne voudra pas le lâcher. Il y a certains parents qui pensent que c'est un attachement, un bon attachement, l'enfant même il est attaché à moi, mais c'est aussi un signe d'insécurité qui dénote des expériences stressantes qui mettent l'enfant en insécurité. Il y a des enfants aussi qui vont être hypoactifs, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir son énergie habituelle dans les activités. Il va réduire sensiblement son rythme d'activité. Certains même s'isolent en fonction de l'âge, ou d'autres refusent même de jouer ou se replient sur soi. On peut avoir aussi au contraire un enfant qui devient hyperactif. Il bouge trop, il bouge à tout moment, ou chez les adolescents qui devient agité. Et ça, c'est des signes qui montrent que l'enfant traverse une expérience stressante. Il y a aussi des peurs qui peuvent subvenir. J'ai peur de dormir seul, j'ai peur des invités ou bien de certaines personnes qui peuvent venir dans la maison, ou soit peur d'autre chose, peurs que l'enfant, qui ne sont pas rationnelles et que l'enfant n'avait pas. Alors ça peut être un enfant aussi qui se plaint tout le temps, ou ce que les parents appellent des caprices. Il y a des enfants qui vont moins parler, qui vont refuser de parler aussi. Ça peut être plus sévère, des enfants qui vont refuser de parler, ou des enfants qui vont moins parler ou vont parler seulement à X ou Y personnes. Chez les adolescents, on retrouve aussi des troubles de mémoire, des troubles de concentration, ou aussi des comportements autodestructeurs, hein, des enfants qui peuvent s'automutiler ou bien qui peuvent avoir vraiment des comportements à risque. Ça, c'est des faits en général que les parents doivent surveiller et qui doivent être des sonnettes d'alarme par rapport à l'état mental des enfants qui peuvent traverser des expériences très stressantes.
Madame Rosette, mais comment le stress affecte-t-il les développements émotionnels et physiques des enfants?
Alors, un enfant, quand il naît, d'abord, il ne manifeste pas d'émotions. Son système émotionnel est tellement immature que les parents peuvent constater chez les tout petits bébés qu'en plein sommeil, ils peuvent rire, pleurer. Il y a cette image-là, c'est les bébés. Ça dénote tout simplement de l'immaturité du système nerveux qui coordonne aussi la régulation émotionnelle. Alors, c'est avec l'expérience d'échange, des échanges chargés d'émotions positives qui permet à l'enfant de réguler ses émotions. C'est-à-dire que l'adulte permet à l'enfant d'acquérir les capacités de régulation émotionnelle de par sa présence qui est rassurante, donc qui lui procure le sentiment de sécurité et qui lui permet de lier un lien affectif de qualité. C'est à travers le lien affectif de qualité, c'est au travers du sentiment de sécurité que le parent permet à l'enfant d'apaiser ses émotions, de les réguler, parce que le parent va être comme un objet, un facteur de régulation. Donc je donne un exemple, un bébé qui se fâche et qui crie lorsqu'il a faim, lorsque le parent vient, le porte, l'enfant va se calmer et c'est justement ces pics de colère et cette capacité à le calmer qui permet au cerveau de l'enfant d'enregistrer qu'il peut être en mesure de se calmer. Et donc les émotions se régulent chez un enfant au contact d'expériences avec l'adulte, d'expériences positives. C'est comme ça que l'enfant construit son système émotionnel. Ce sont les expériences de qualité qu'il a qui lui permet de réguler son système émotionnel.
Alors, dans ces cas,
lorsque ces expériences sont négatives, ces expériences sont stressantes. Les expériences stressantes favorisent une plus grande expression et dans sur une longue durée, parce que les expériences que nous avons citées, ce n'est pas parce que ça arrive une fois que ça va avoir de l'impact, mais c'est généralement des environnements où ces expériences-là sont vécues de manière chronique. Plus la durée est élevée, plus l'enfant aura des émotions négatives sur une plus longue durée, ce qui va l'empêcher de pouvoir avoir le plus souvent des émotions positives ou bien d'avoir des capacités de les réguler, parce qu'il est dans un environnement qui tout le temps suscite l'expression d'émotions négatives. Et donc, cela a de l'impact sur la capacité de régulation émotionnelle. C'est comme ça qu'on peut avoir plus tard des troubles émotionnels et après des troubles relationnels. Mais sur le plan physique aussi, les enfants qui n'ont pas rempli leurs besoins affectifs, on remarquera qu'ils auront une capacité immunitaire moins élevée que les autres enfants et donc ils sont beaucoup plus exposés à des maladies. Et la médecine a même remarqué que les enfants en carence affective ont tendance à tomber le plus souvent malades, contrairement à ceux qui ont des besoins affectifs bien remplis, qui ont un système immunitaire plus fort ou plus résistant.
Avec ces systèmes immunitaires plus résistants, existe-t-il des stratégies que les parents peuvent utiliser pour aider leurs enfants à gérer les stress?
Alors, en fonction de l'âge, il y a d'abord le premier système, ce qu'on appelle le système de caregiving, c'est-à-dire que le parent va être le donneur de soins. C'est-à-dire un parent qui accompagne l'enfant dans l'alimentation, qui accompagne son enfant pour son bain. Donc vraiment tout le système de soins que un parent est censé apporter, c'est très important que le parent soit lui-même avec cet enfant. Et ça permet aux parents de passer du temps de qualité, de nourrir les besoins affectifs de son enfant. Et l'enfant, sachant que mon parent est là, il s'occupe de moi, ça nourrit le sentiment de sécurité qui le rend moins vulnérable au stress. Alors le stress, il y en a, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait va empêcher un enfant de stresser. Non, le stress, il y en a, mais ce qui est le plus important, c'est que l'enfant sache compter sur son parent. Déjà, la présence du parent est très importante, mais à un certain âge, quand le parent a tellement été présent, l'enfant mentalise la présence du parent comme source d'apaisement, comme source de sécurité. Même si le parent n'est pas là, il a déjà intériorisé ça. Mais ça arrive quand le parent est le donneur de soins et que les soins correspondent réellement aux besoins de l'enfant, donner à manger. C'est-à-dire qu'il y a des réponses adéquates aux besoins de l'enfant, premièrement. Et puis, deuxièmement, éviter tout ce qu'on a cité comme expérience potentiellement traumatique, parce que qui dit traumatique voit des facteurs de stress à l'intérieur. Donc, par exemple, pour les violences conjugales, éviter de laisser l'enfant être témoin de ce genre d'expérience. Donc, prévenir, c'est aussi éviter aux enfants d'être témoins de tous les facteurs de stress que nous avons cités. Et aussi, il y a des habitudes que le parent peut avoir. Par exemple, il est recommandé de passer plus ou moins 20 minutes à échanger, à avoir des temps de qualité avec son enfant, suivre ensemble la télé, parler, être à l'écoute, partager ses moments de joie, partager ses intérêts. Voilà, à travers les jeux, à travers des activités, et pour les adolescents, lui faire confiance, être à l'écoute, être présent. Donc ce sont toutes ces habitudes-là et tout ce système, des stratégies qu'on peut mettre dans le système familial ou dans l'environnement de l'enfant pour justement éviter des conséquences d'un stress vécu de manière chronique, d'impact plus tard dans la vie de l'enfant.
Donc avec toutes ces stratégies, on peut dire que les parents ont la possibilité de créer un environnement familial qui réduit les stress.
Oui, un environnement sain, c'est celui qui répond aux besoins de l'enfant. Donc au cours du développement, l'enfant a des besoins affectifs.
Alors quand est-il nécessaire de consulter un professionnel pour le stress de son enfant, lorsqu'on constate que son enfant est stressé?
Oui, alors un premier stade, c'est peut-être de demander conseil. Lorsqu'on constate tout ce que nous avons énuméré comme signes de stress chez l'enfant, le parent peut essayer d'appliquer ce que nous avons aussi énuméré comme stratégie. Et si ces stratégies ne marchent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des changements chez l'enfant à ce moment-là, il est recommandé de consulter afin d'avoir un avis d'un professionnel.
Ok, mais lorsque le stress, Madame Rosette, est mal géré, quels sont les effets à long terme du stress mal géré ou non géré chez les enfants?
Alors, un stress mal géré, ça signifie un stress chronique. Oui, c'est-à-dire le stress va se chroniciser, mais un stress chronique a pour conséquence des maladies mentales plus tard, des troubles mentaux, et voire aussi des maladies telles que des hypertensions plus tard, des troubles addictifs aussi. On peut avoir aussi des risques des maladies cardiovasculaires en général, des risques de développer le diabète aussi, et des troubles relationnels. Aussi des troubles de personnalité, bref, des troubles mentaux ou des perturbations au niveau psychologique en général. Et aussi sur le plan physique, on peut être exposé à des maladies.
Et voilà, Madame Rosette, on cite un conseil pour les parents.
Alors, le stress n'épargne personne. Les bébés sont stressés, les adolescents comme les adultes. Donc, il convient d'être vigilant et de ne pas ignorer qu'à différents stades de développement de la vie d'un être humain, le stress peut exister. Et de nos jours, il y a de plus en plus de facteurs de stress auxquels nous sommes exposés, d'où il est important d'être vigilant par rapport aux expériences que nos enfants vivent, de manière à les prévenir qu'ils ne développent pas plus tard à l'âge adulte des troubles mentaux. Donc, c'est une façon de contribuer aussi à la limitation ou à la prévention des troubles mentaux qui sont actuellement en explosion, hein, parce que nous avons, je crois qu'on a touché 21 millions de comme statistiques de Congolais qui souffrent de troubles mentaux. Alors, c'est un signe très, très alarmant. Et donc, nous invitons tous les parents à contribuer à cette lutte pour avoir des générations plus saines dans le futur.
Voilà, Madame Rosette Disachi. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous remercie également, Monsieur Jeff.
Vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du magazine Bana Okapi, un numéro spécial qui vous a parlé des plus grandes causes du stress chez les enfants. En effet, le stress chez les enfants est une réalité qui a souvent pour cause les conditions environnementales des expériences négatives. Ce stress peut produire plus tard des troubles émotionnels et relationnels, parmi lesquels les violences physiques et psychologiques. Cette émission est à retrouver sur les sites de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Ce magazine a été coproduit par Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Grâce Nvozolo, Rachel Kessembangou, André Kitenge et Stanislas Diomi. Gisèle Kaj était à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga, une présentation de Sarah Sombila. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro passionnant de Bana Okapi. En attendant, profitez de la compagnie de Christelle Fritti qui anime l'antenne soir.